Merci Eric. Et merci de nous avoir guidés à travers tout l'évangile dans ce court moment ensemble. C'est vrai que c'est un peu atypique de se voir en fin de journée plutôt qu'en début de journée, et en fin de semaine plutôt que le premier jour de la semaine. Mais vous avez bien fait de venir tout moment, toujours, et un bon jour pour louer le Seigneur. Et tout moment est un bon moment pour écouter le Seigneur également. Et alors c'est avec joie que je me prépare à prêcher. Vous savez qu'un mot que j'utilise apparemment souvent est le mot « approprié ». Je pense que ça vient du fait qu'il y a quatre expressions en anglais qui se traduisent par le mot « approprié ». Et donc c'est souvent approprié de dire ça. Mais je trouve approprié que ma dernière prédication soit sur un texte de la Bible, comme j'ai souvent prêché sur un texte. Et c'est dans une série que je lance aujourd'hui, mais que vous allez poursuivre. Et comme toutes les autres fois, je cherche simplement à faire entendre et comprendre la parole en priant que Dieu puisse fortifier l'Église. Et pour ceux qui ne sont pas là ce soir, qu'ils puissent l'écouter sur le site et être ainsi fortifiés dans leur foi. Mais écouter la parole de Dieu nous fait toujours du bien. Ça nous fait toujours du bien. Dieu veut nous encourager, nous aider. Et donc je vais prier qu'il nous parle à travers sa parole ce soir. Père Céleste, nous te remercions parce que toi qui es souverain et grand, tu sais aussi te faire entendre et comprendre par nous qui sommes si petits. Et ce soir, nous voulons être devant toi. Nous prions que tu rendes nos cœurs tendres, que nous n'endurcissions pas notre cœur lorsque nous entendrons ta voix, mais que nous puissions être prêts à faire tout ce que tu nous demandes. Nous prions que nous ayons à cœur de vivre pour toi, de persévérer pour toi, sachant que la route est peut-être encore longue devant nous, mais que c'est toi qui nous gardes. Alors fortifie-nous, Seigneur, et que nous ayons des oreilles pour entendre et que nous ayons vraiment la force pour te suivre. Au nom de Jésus, notre Sauveur, bien-aimé. Amen. Je vais vous inviter à écouter le début d'une lettre écrite aux Corinthiens. On a lu 2 Corinthiens tout à l'heure, mais ici c'est 1 Corinthien, c'est la première lettre aux Corinthiens. Et il y a énormément dans cette lettre. Si vous l'avez déjà lue, il n'y a pas qu'un seul sujet. Ce n'est pas comme les autres lettres où on se concentre sur un sujet. On peut lire, il va parler de dons spirituels, de problèmes d'immoralité. Il va parler du mariage, il va parler du célibat, de la résurrection. Par moments, ça va ressembler un peu à ces longs mails qu'on a parfois et dans lesquels on répond après chaque paragraphe et ça continue un petit peu les allers-retours parce que c'est Paul qui avait reçu une lettre de leur part et qui répond à certains sujets qu'eux avaient évoqués auprès de lui. Donc ce n'est pas vraiment qu'il y ait un sujet au centre de cette lettre, mais qu'il commence avec un message pour l'Église qui concerne l'unité. L'unité qui doit exister dans l'Église. Que ceux qui se sont détournés de la sagesse de la philosophie grecque de l'époque, la philosophie du monde, pour croire en Christ qui a été prêché par Paul, Christ crucifié, Christ le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, que ces gens-là, les chrétiens, soient unis entre eux. Et c'est un message qui est toujours nécessaire aujourd'hui, parce que nous aussi, nous risquons de nous séparer, de nous diviser, de nous éloigner les uns des autres. Et sur plusieurs semaines, vous allez l'entendre. Mais je commence avec la première phrase, du premier chapitre de cette première lettre aux Corinthiens. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole de la connaissance, dans la mesure, la parole et la connaissance. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis, dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi, à Apollos, et moi, à Céphas, et moi, à Christ. » Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Paul dit trois choses aux Corinthiens. C'est une église qu'il connaît bien. Il a passé 18 mois là, dans cette ville de Corinthe. C'est grâce à sa prédication que les uns et les autres se sont tournés vers Christ pour la première fois. Ce n'est pas une église qu'il ne connaît pas. Il connaît leur situation. Il ne se voile pas la face par rapport à leur état. Il est au courant de qui ils sont et ce qu'ils sont en train de vivre. Et il sait ce qu'ils doivent entendre. Il les aime tellement qu'il a à cœur de leur écrire la vérité dans l'amour. Et les trois choses qu'il leur dit dans ces premiers versets correspondent un peu au passé, à l'avenir et au présent. Ou si on regarde ça un peu différemment, ils apprennent ce que signifie la foi chrétienne, leur identité, leur avenir et leurs conditions. On va regarder chaque aspect à la fois. D'abord, vous êtes saints. La salutation de Paul est assez typique. Il dit qui il est, un apôtre, ça veut dire qu'il est envoyé par Christ, par la volonté de Dieu. C'est une chose qui était un peu remise en question à l'époque. Au chapitre 9, il va revenir sur cet état d'apôtre en disant « Oui, je suis votre apôtre, vous me connaissez. » Alors il dit qu'il est apôtre et puis il dit à qui il écrit. À l'Église, l'Assemblée de Corinthe, pas une assemblée politique grecque comme il pouvait y en avoir, des assemblées, ecclésia, mais une assemblée chrétienne. C'est une assemblée de Dieu, dit-il. Et il les salue avec la grâce et la paix de Dieu. C'est assez typique pour les salutations dans ces lettres. Mais ce qui sort des détails, d'ordinaire, ce sont les détails. Ça vaut toujours la peine de regarder dans les détails qu'est-ce qui est un peu différent. Et il dit que les chrétiens de partout, tous les chrétiens, mais eux aussi à Corinthe, ils font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une petite phrase qui a de l'importance. Faire appel au nom du Seigneur veut dire mettre sa confiance en Jésus. L'apôtre lui-même, à quelque temps, avait fait appel au nom de César pour son tribunal. Que César me juge. Mais il a fait appel au nom de Jésus pour son salut, que Jésus me sauve et que je sois trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient par la loi, mais avec celle qui vient par la foi. Et on va revenir aussi au fait qu'il appelle Jésus notre Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant. Mais le plus flagrant dans ces premiers versets est la façon dont il qualifie les chrétiens de Corinthe. Vous êtes saints. Ils ont été sanctifiés, verset 2. Ils sont appelés saints, appelés à être saints. Honnêtement, ce n'est pas comme ça que j'aurais décrit les Corinthiens. Si vous connaissez un petit peu la lettre, ou si vous lisez cela dans les semaines qui viennent, lisez, essayez de décrire les Corinthiens. On pourrait dire qu'ils étaient des pentecôtistes. Ils s'intéressaient beaucoup au parler en langue, aux œuvres de l'esprit, aux dons de l'esprit, dons de prophétie, etc. Mais ils étaient aussi des personnes mondaines, des personnes un peu superficielles, pas très pieuses, chrétiennes, oui, mais superficielles. Elles tolèrent l'immoralité dans l'Église. Elles sont peu charitables. On pourrait dire qu'elles sont immatures, ces personnes de l'Église. Elles sont divisées, elles sont trop tolérantes, elles sont orgueilleuses. Mais au lieu de dire tout cela, tous les adjectifs qu'il pourrait utiliser, Paul choisit de dire « vous êtes saints ». Quel choix étrange. Alors quand vous avez une déclaration de Dieu, et que ça ne semble pas vraiment coller avec la situation, il faut savoir que c'est Dieu qui l'emporte. Il dit et la chose arrive. Donc s'il dit qu'ils sont saints, ils sont saints. Il dit que vous êtes saints, vous êtes saints. Et en même temps que cette déclaration a lieu, dès le début de notre vie chrétienne, il y a aussi l'œuvre de la sanctification qui fait que nous luttons contre le péché, nous arrivons à résister au péché. Parfois nous chutons, parfois nous péchons, mais nous continuons sur le chemin de la sanctification. Et pour cela, c'est vrai qu'un des chants qu'on a chanté nous a aidé à bien comprendre, n'est-ce pas, tout cela. Nous déshonorons Dieu, oui, c'est vrai. Comment nous pouvons répondre à l'accusateur? D'abord, il faut savoir distinguer entre la voix de l'Esprit de Dieu et la voix de l'ennemi de Dieu, l'accusateur. L'Esprit de Dieu va nous dire « ce que tu as fait n'est pas bien, reviens à Dieu ». Mais l'accusateur va dire oh, « ce que tu as fait est impardonnable, tu ne pourras jamais être pardonné pour ça, laisse tomber, Dieu ne voudra pas plus de toi ». Pourtant Dieu dit « tu es saint ». Paul connaissait bien les chrétiens de Corinthe, donc il n'est pas en train de les flatter, il n'est pas en train de leur payer un compliment juste pour que ça puisse bien se passer, parce qu'il ne les connaît pas très bien, non. Il sait qu'à l'église de Corinthe, les gens sont issus du monde et qu'ils ne sont pas issus de l'école du dimanche. Il y avait des voleurs là-dedans, à l'église. Il y avait des homosexuels, il y avait des ivrognes, il y avait des travestis. Tous réformés, oui, mais leur réputation était encore celle-là, n'est-ce pas? Leur réputation leur collait à la peau. Et voici ce qu'il leur écrit. Au chapitre 6. C'est ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, sanctifiés. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons été justifiés. Et nous devons avoir, chérir cette doctrine. Ça doit nous être présent à notre esprit. Nous sommes innocents à présent, nous sommes purs. Mes péchés ne sont plus, ils n'existent plus. Si on écrivait tous tes péchés sur un tableau, en tout cas quelques-uns de tes péchés sur un tableau, il faudrait un grand tableau. Mais quand on efface cela et qu'on lave le tableau, il ne reste plus rien. Aucune trace de péché. C'est ce que Dieu a fait pour nous. La sainteté, vous savez, n'est pas réservée à une classe spéciale de chrétiens. Où on peut dire, oh, eux, ils sont saints. Mais tous les chrétiens sont saints. Et ce n'est pas une option, comme à l'école, on a l'option du latin. Pour ceux qui ça intéresse, voilà, vous pouvez être saint si ça vous intéresse. Non, nous devons tous être saints. Ça fait partie de la définition même d'un chrétien. Nous sommes saints. Un peuple saint pour un Dieu saint avec un esprit saint qui est en nous. Mais peut-être que tu vas dire, ouais, je suis saint, mais ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident de continuer. On a les baptisés qui sont là de la semaine passée. Mais la vie chrétienne est encore longue. Comment est-ce que ça va aller pour les prochaines années? Eh bien justement, il enchaîne avec ça. Dieu va vous soutenir. Il parle de notre passé, vous êtes saints. Mais quand il parle de l'avenir, il dit Dieu va vous soutenir. Il veut assurer les chrétiens, rassurer les chrétiens que Dieu va les aider. C'est une œuvre de sa grâce, verset 4. Alors il remercie Dieu pour sa grâce. Dieu qui commence une bonne œuvre en nous, malgré nous, va terminer la bonne œuvre en nous. Parce que c'est sa grâce. Et dans ces versets 4 et suivants, en fait, d'abord, on se concentre sur ce que Dieu leur a donné. Ils ont la parole et la connaissance. Ils ont toute parole et toute connaissance. C'est complet. Certains peuvent dire qu'ils parlent aisément, d'autres peuvent comprendre beaucoup, mais ne communiquent pas très bien. Mais à Corinthe, ils savaient parler et comprendre. Comprendre et parler. Et ils avaient des dons spirituels, verset 7. Il ne vous manque aucun don. Alors pour eux, ça les intéressait beaucoup, les dons spirituels, n'est-ce pas? Les dons spirituels qui étaient si importants. Et c'est vrai qu'ils sont importants aussi aux yeux de Dieu, les dons spirituels, pour édifier l'Église. Mais remarquez que dans ces quelques versets, 4 à 9, ce qui est mis en avant, c'est ce que Dieu lui-même a donné, pour que nous puissions regarder à Dieu. C'est sa grâce, c'est ses richesses. C'est lui qui a établi le témoignage à Christ. Et ça me fait réfléchir à un verset que j'ai entendu. J'ai écouté les premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens pour me mettre dans le contexte. Et plus tard, Paul écrit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier ?» Je pense à ces années écoulées. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de la part du Seigneur. Des choses que j'ai pu faire, des études que j'ai pu donner, des prédications, du fruit que j'ai pu voir. Mais tout ça, je l'ai reçu. Alors comment être fier quand on a reçu un bagage, ou reçu des résultats, ou reçu de l'aide de la part de Dieu? Nous ne devons pas nous glorifier de nos dons spirituels, parce que ce sont des dons spirituels. Ça vient d'ailleurs, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons inventé notre don spirituel. Alors merci à Dieu pour cela. Donc il parle du fait qu'ils ont tout, ils ont reçu cela, ils ont reçu des dons de la part de Dieu. Mais quand Paul regarde vers l'avenir, toujours il met en avant le rôle de Dieu. C'est lui, verset 8, qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable. Quand on entend ce mot, en fait, on se rend compte que ça revient pas mal de fois dans le Nouveau Testament. Écoutez, je vais juste vous... ne cherchez pas ça dans la Bible, je vais juste vous citer les versets en disant la référence. Si vous voulez noter la référence, vous pouvez le voir plus tard. Mais juste écoutez comment Paul décrit l'Église. Éphésiens 5, 27. « Christ est donné pour l'Église, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Philippiens 1, 10. « Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » 1 Thessaloniciens 3, verset 13. « Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus avec tous les saints. » Vous voyez que quand Paul pense au retour de Jésus, il pense à être irréprochable. Il pense que ce serait merveilleux d'être irréprochable ce jour-là, devant lui. Quand vous allez à un mariage, est-ce que vous ne mettez pas vos plus beaux vêtements? Vous n'allez pas juste tirer quelque chose du linge sale en disant « bon, ben voilà, c'est une chemise ». Vous allez mettre vos plus beaux vêtements. D'autant plus si c'est votre mariage. Pas traîner votre robe dans la boue, vous allez mettre belle robe, mesdames, n'est-ce pas? Alors Dieu nous appelle à communier avec le Fils, et Dieu est saint, et donc il faut grandir en sainteté pour être irréprochable. Alors je veux qu'on comprenne un peu comment c'est possible que nous soyons irréprochables le dernier jour, parce que c'est important qu'on le soit. Et il y a deux scénarios qui ne vont pas se produire. Pour qu'on comprenne bien, deux scénarios qui ne vont pas se produire avant qu'on voit le scénario qui va se produire. Le premier scénario qui ne va pas se produire, c'est que nous n'allons pas avoir des années de vie sans péché du tout. Les 10 dernières années de votre vie, vous dites, wow, maintenant c'est facile la vie chrétienne, je ne pêche plus. Ce n'est pas possible. D'accord ? Parlez avec des chrétiens plus mûrs que vous, si vous voulez, pour vous renseigner. Ce n'est pas comme ça. On sera débarrassé de certains péchés. Heureusement, on ne pêchera plus dans certains domaines. Mais on n'est pas à l'abri d'une pensée amère, ou d'une parole mauvaise, ou d'une attitude cupide, ou une pensée jalouse, ou égoïste. Et au plus on est saint, plus ces péchés nous dérangent, ou devraient nous déranger, parce qu'on veut être irréprochable. Donc on ne va pas vivre des années comme ça sans aucun péché. Ce n'est pas ça qu'il veut dire quand il dit qu'on sera irréprochable. L'autre scénario qui ne va pas se passer, nous ne pouvons pas vivre de manière hypocrite pendant notre vie, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, comme des non-chrétiens quand on est avec des non-chrétiens. « Oh, ils ne savaient pas que j'étais chrétien, je vis comme ça, que je vis comme eux. » Et puis, subitement, être irréprochable quand Jésus revient. Non. Il y a des avertissements dans la Bible. ce genre de vie complètement incohérente. C'est pas comme ça. Dieu nous avertit contre le laxisme. Ce qui doit se passer, là c'est le scénario qui va se passer pour qu'on soit irréprochable, c'est un travail de Dieu dans notre vie. D'abord, il nous sanctifie entièrement, il nous pardonne tout. Mais après nous avoir imputé la justice de Christ, la sainteté de Christ, il travaille en nous pour qu'on mette à mort le péché. Et Dieu qui travaille en nous, c'est avec notre effort, on y met du sien, mais on se dit parce que Dieu est saint, je veux être plus saint. Je veux être saint dans ma vie de tous les jours. Et nous devons apprendre à aimer les choses que Dieu aime, et pas les choses que le monde nous présente. Au lieu de me réjouir de la victoire de mon équipe, me réjouir des victoires de Christ, ou plus me réjouir de cela que la victoire de mon équipe. Au lieu d'être simplement content d'avoir une famille et les frères et sœurs, être réjoui parce que Dieu m'aime. Aimer les choses de Dieu, sa parole, son message, ce salut, son histoire, son peuple, ça semble très difficile. Parce que je ne me sens pas fort, je ne me sens pas généralement fort, fort, oui, plus que vainqueur. Je ne me sens pas irréprochable. Jour après jour, quand je rencontre Dieu, j'ai des choses à confesser, j'ai des choses à dire à Dieu qui ne vont pas. Je dois demander pardon. Et le jour du Seigneur me paraît loin. Plaise à Dieu que ce soit à la fin de la semaine prochaine, Dieu revienne. Mais ça pourrait être encore loin. La promesse de Dieu, ici, c'est que même si c'est loin, même si c'est encore dans longtemps, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous voyez cela au verset 9 ? Et dans un texte parallèle que je vais quand même vous inviter à trouver, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est encore Paul qui écrit, c'est une autre église, c'est un peu la même situation, ils sont en Grèce, et Paul leur écrit par rapport au retour de Christ, et vous allez entendre vraiment, c'est un écho de ce qu'on lit en 1 Corinthiens 1. Écoutez cela, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Le passé, c'est qu'on est saint. L'avenir, c'est qu'on est saint. Il le fera, Dieu le fera pour ceux qui sont réellement à lui. Si tu as demandé que Christ règne dans ta vie, si tu as demandé que Dieu prenne ta vie, qu'il soit celui que tu aimes le plus dans ta vie, il s'occupe de te garder saint, de te préparer pour que tu sois irréprochable quand Jésus reviendra. Et quelle joie ce sera d'être irréprochable quand Jésus est pur et saint et vient. Magnifique. Mais ayant parlé du passé, et en parler de l'avenir, Paul revient sur le présent et un défi pour le présent. Vous devez rester unis. C'est étrange parce qu'il ne dit pas vous devez rester pur ou vous devez rester saint. Ça, c'est clair que nous devons rester purs et saints. Mais il sait qu'il y a un risque que les chrétiens se divisent. Il parle d'être parfaitement unis, verset 10. Vous savez, parfois, on rencontre des chrétiens qui disent « Ah mais... moi, je vis ma vie avec le Seigneur. Le Seigneur est là, il est saint, je prie, je lis la Bible, et je suis proche de Dieu, et ça me fait du bien. Donc, je ne viens pas à l'Église. » Non, les choses sont reliées, n'est-ce pas ? Si vous voulez être chrétien, vous devez être uni avec d'autres chrétiens. C'est comme ça que la vie chrétienne se vit. Parfaitement unis. Unis dans ce que nous disons, notre langage, unis dans ce que nous pensons, même nos attitudes, verset 10. Alors ça, c'est un travail à réaliser, parce que nous ne sommes pas identiques. Nous devons faire des efforts, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Dans une église saine, il y a des gens de différents âges, par exemple. Ceux qui ont été chrétiens depuis le siècle dernier, ceux qui sont chrétiens depuis peu de temps. Il y a des personnes qui ont des nationalités différentes. Il y a des goûts différents aussi. Et parfois, un aspect supplémentaire, c'est notre arrière-plan dans une autre église qu'on apporte avec nous lorsqu'on entre dans une église. Comment est-ce possible de vivre l'unité? L'unité demande un effort. Un appel est lancé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dit verset 10. Je vous supplie. Mais c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça devient intéressant. Vous voyez notre Seigneur Jésus, là, au verset 10? Ça se trouve déjà au verset 2, deux fois. Au verset 7, verset 8, verset 9, verset 10. Six fois. Sur les 12 fois qu'il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ici, dans ce chapitre, dans notre lecture. Et comparé à cela, dans la deuxième lettre de Corinthiens, qui est aussi une longue lettre, il ne dit que trois fois notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une concentration de cette expression, notre Seigneur Jésus-Christ, ici. Pourquoi? Il me semble que c'est nous devons, parce que nous devons rester unis en réalisant, en comprenant que nous avons le même Seigneur Jésus. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, ou ton Seigneur Jésus, ou mon Seigneur Jésus, c'est notre Seigneur Jésus. Et Christ n'est pas divisé. Et donc nous, nous ne devons pas être divisés non plus. Lorsqu'il y a un grand chelem de tennis, les spectateurs se retrouvent ensemble, ils sont venus au même endroit, ils adorent tous le tennis. Mais qu'est-ce qui se passe? Parler avec les uns et les autres, en fait ils sont tous divisés. L'un est venu pour voir tel joueur de tennis, quelqu'un d'autre préfère un autre. Alors vous êtes plus David Goffin, ou plus Djokovic, ou plus pour Alcaraz. L'église à Corinthe était devenue un peu comme ce tournoi de tennis. Les uns aimaient suivre Paul, verset 12 nous montre. Paul était leur apôtre qui avait fondé l'église. Mais il y avait d'autres personnes qui disaient, moi je préfère en fait Apollos qui est venu prêcher à Corinthe après. Apollos était d'Alexandrie, il était un peu différent, peut-être un peu plus cultivé. La Bible dit qu'il était un homme éloquent. Et pour les Corinthiens, l'éloquence avait de l'importance. Alors certains disaient, ouais, Paul c'était bien pour commencer l'église, mais oh, Apollos j'aime bien quand il prêche. Et puis il y avait d'autres qui disent, non, moi j'aime bien Pierre, l'original, et il fait partie des 12 disciples d'origine. Et puis en plus il est juif, donc voilà, c'est un peu plus proche de nous. Je ne sais pas. D'autres disaient, je suis là pour Christ, moi. C'est ce qu'ils devaient tous dire. Personne d'autre n'a été crucifié pour nous, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ça risque de nous arriver aussi, de vous arriver aussi. Qu'on se rattache à un ancien, ou à un autre parce que vous trouvez qu'il est comme vous, ou que vous l'appréciez. Nous devons éviter de nous rassembler autour d'un leader, ou autour d'une personnalité chrétienne autre, en dehors de l'Église, un écrivain ou un prédicateur célèbre. Nous devons faire un effort pour que ce qui nous unisse réellement, c'est Jésus au centre de l'Église. Et nous devons aussi faire un effort pour ne pas nous appuyer sur l'expérience que nous avons eue. Vous voyez, certains membres de l'église de Corinthe avaient eu l'expérience d'être baptisés par Paul, l'apôtre. Et alors il va parler un petit peu de ça. Lui-même semble avoir oublié qu'il avait baptisé certains. Mais eux, pour eux, c'était important. Ah ouais, mais c'est Paul qui m'a baptisé. Et il dit, il ne baptisait pas en son nom. Il y a un nom auquel nous faisons appel, verset 2. Il y a un nom par lequel on supplie les autres chrétiens, verset 10. Alors il y a un nom dans lequel on baptise, celui de notre Seigneur Jésus. Et il termine en disant qu'il a servi à annoncer l'Évangile. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. À quoi est-ce qu'il a servi, Paul? Il a servi à annoncer l'Évangile, à faire connaître le Seigneur Jésus. Il n'avait pas de l'éloquence. Il n'avait pas quelque chose pour attirer les Corinthiens vers lui, en disant « Oh ouais, c'est un bon orateur, celui-là. » Mais plutôt la croix de Christ qu'il avait annoncée. Tout simplement. La croix de Christ était attirante. La croix de Christ était puissante. Elle était efficace. Alors, qu'est-ce qui vous attire à l'Église? La musique? Le programme pour les enfants? Les responsables? J'espère que c'est le Seigneur Jésus qui vous intéresse, qui vous attire à l'Église. Il est mort pour vos fautes. Il est ressuscité pour notre vie. Il appelle des pécheurs à changer d'attitude. Ce même Seigneur veut nous unir. Il veut que nous restions unis en lui. Et j'aimerais pouvoir dire ce que Paul écrit aux Philippiens cette fois, en disant ceci: « Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » L'Évangile que j'ai annoncé, l'Évangile que d'autres ont annoncé avant moi, c'est l'Évangile de Christ, c'est l'Évangile qui sauve, et c'est dans l'Évangile que nous devons rester unis. Alors si nous nous sentons impurs, Dieu insiste que nous sommes saints, pardonnés, vivons dans la sainteté qu'il nous a acquise. Si nous nous sentons faibles, Dieu rappelle qu'il est fidèle et il nous gardera. Si nous nous sentons divisés, tiraillés, peut-être éloignés les uns des autres, Dieu veut vous rappeler que vous avez beaucoup en commun avec le Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Prions. Oui, Seigneur, ce que tu nous annonces est un défi de taille. Tu sais combien nous ressemblons à ces chrétiens de Corinthe du 1er siècle. Dans un sens, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes saints comme eux étaient saints. Nous sommes justifiés, pardonnés comme eux. Mais nous avons aussi parfois du mal à vivre l'unité que tu veux voir entre tes enfants. Alors Seigneur, permets que nous puissions non seulement profiter de la justice et de la sainteté de Christ, mais aussi de l'unité de Christ qu'il a donnée en payant par son sang, par sa vie, pour que nous puissions être tous ensemble à toi. Amen.